Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دون يعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله
L'Iran et le Pakistan ont signé 8 accords de coopération. Des missiles du Hezbollah libanais se sont abattus sur la base israélienne d'Ein Zeitim. Et aux États-Unis, les manifestations pro-palestiniennes prennent de l'ampleur dans les universités. C'était les principaux titres. En voici le journal. L'Iran et le Pakistan ont signé 8 accords visant à promouvoir la coopération dans divers domaines. En présence du président iranien Ebrahim Raisi, et du premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, les responsables iraniens et leurs homologues pakistanais ont signé 8 accords. Selon Téhéran et Islamabad renforceront leur coopération dans plusieurs domaines, dont le commerce, la science et la technologie, l'agriculture, la santé, la culture, ainsi que des affaires juridiques et judiciaires. L'Iran et le Pakistan entretiennent des liens inséparables et sont déterminés à renforcer leurs relations dans les domaines économiques, politiques, commerciaux et culturels, affirmait le président iranien Ebrahim Raisi lors d'une conférence de presse conjointe avec le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif qui s'est tenue le lundi 20 avril à Islamabad, capitale du Pakistan. Téhéran et Islamabad doivent utiliser leurs capacités pour servir les intérêts des deux pays, indiqué le président Raisi, mettant l'accent sur l'intention des deux parties d'améliorer leurs relations dans plusieurs domaines. Les deux pays voisins partagent la même position en matière de lutte contre le terrorisme, la sécurité, le crime organisé et les drogues illicites, a déclaré Raisi avant de souligner que les deux États cherchent à renforcer leur coopération bilatérale, régionale et internationale dans le but de défendre les droits de l'homme. Le président iranien a également fait part de la détermination des deux parties à porter la valeur de leurs échanges commerciaux à 10 milliards de dollars. Ailleurs, dans ses remarques, le président iranien a salué le soutien indéfectible du peuple pakistanais aux valeurs islamiques et au peuple opprimé de la Palestine dans la bande de Gaza. À son tour, le premier ministre pakistanais a fait part de l'inquiétude de Téhéran et d'Islamabad quant à la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza. Les deux pays ont appelé le monde entier à mettre immédiatement fin au génocide à Gaza. Téhéran dénonce les sanctions de l'Union européenne et déclare que le bloc ne fait qu'obéir aux exigences du régime criminel israélien. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a critiqué l'Union européenne pour avoir renforcé les sanctions à l'encontre de l'Iran en représailles aux récentes frappes de missiles et de drones contre Israël, affirmant que le bloc ne devrait pas céder aux exigences de Washington visant à satisfaire le régime occupant de Tel Aviv. Il est regrettable de voir l'Union européenne décider rapidement d'appliquer davantage de restrictions illégales contre l'Iran, simplement parce que l'Iran a exercé son droit de légitime défense face à l'agression irresponsable d'Israël, a écrit Hossein Amir Abdollahian dans un article publié le mardi 23 avril sur la plateforme de médias sociaux X. Il a ajouté « L'Union européenne ne devrait pas suivre les conseils de Washington pour satisfaire le régime criminel israélien ». Le plus haut diplomate iranien a également déploré les réactions de l'Union européenne au génocide du régime israélien contre les Palestiniens, les qualifiant de presque rien de plus que des paroles creuses. Amir Abdollahian a finalement appelé l'Union européenne à appliquer des sanctions contre Israël. Ces remarques interviennent un jour après que les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont convenu d'imposer de nouvelles sanctions contre l'Iran, qui couvrirait la fourniture présumée de missiles à d'autres pays et entités à la suite de l'opération à grande échelle baptisée « Vraie promesse » contre les territoires occupés par Israël. L'Iran a lancé plus de 300 drones et missiles sur les territoires palestiniens occupés par Israël en représailles au bombardement israélien du complexe de son ambassade à Damas. Lundi, le chef de la diplomatie étrangère de l'Union européenne, Joseph Borrell, a déclaré que les membres du bloc, lors d'une réunion à Bruxelles, s'étaient mis d'accord sur le principe d'étendre les sanctions existantes contre les drones iraniens, aux missiles iraniens et à leurs éventuelles exportations vers d'autres pays. Nous sommes parvenus à un accord politique afin d'élargir et d'étendre le régime de sanctions existant et concernant les drones afin de couvrir les missiles et leur potentiel transfert vers la Russie, a déclaré Borrell, ajoutant que les interdictions seraient également étendues au-delà de la Russie, évoquant par là une éventuelle mais supposée fourniture de missiles à des groupes régionaux considérés être des alliés de l'Iran. Téhéran a nié avoir fourni des drones ou des missiles à des groupes régionaux, tout en appelant à de nombreuses reprises que les drones fournis à la Russie et qui auraient été utilisés dans sa guerre contre l'Ukraine avaient été livrés à Moscou bien avant le début de cette guerre qui remonte à février 2022. Le Hezbollah libanais frappe la base israélienne d'Ein Zeitim avec des roquettes Grad. La résistance islamique au Liban, le Hezbollah, a annoncé lundi 22 avril avoir attaqué le quartier général de la 3e brigade d'infanterie, située sur la base israélienne d'Ein Zeitim, dans la zone occupée de Safad, à l'aide de dizaines de roquettes Grad. Dans son communiqué, le mouvement libanais a confirmé que cette opération était une réponse aux attaques israéliennes contre des villages et des maisons civiles dans le sud du Liban. Les plus récentes opérations étant celles effectuées à Srifa, Al-Odeissa et à Rab Talatin. Le Hezbollah a également attaqué avec des obus d'artillerie les forces d'occupation israéliennes regroupées derrière le site d'Al-Samara, dans les collines libanaises occupées de Kfar Chouba. Les combattants du mouvement libanais ont également ciblé des équipements d'espionnage israéliens près de la ville libanaise d'Al-Wazani en utilisant des armes appropriées. La résistance a confirmé que ces opérations s'étaient effectuées en soutien au peuple inébranlable de la bande au Gaza. Le mouvement de résistance palestinien Hamas dans la bande au Gaza a réagi à la découverte d'autres corps provenant de fosses communes creusées par le régime occupant sioniste dans un hôpital de la partie sud de Gaza. Les agences de la défense civile palestinienne ont annoncé lundi 22 avril avoir déterré environ 73 autres corps de ceux qui avaient été enterrés à l'intérieur du complexe médical Nasser situé dans la ville de Khan Younes. Jusqu'à présent, les Palestiniens ont retrouvé les restes de quelques 300 personnes, pour la plupart des femmes, des enfants et des personnes âgées, qui auraient été, le mois dernier, entassés les uns sur les autres, au moment où les forces israéliennes assiégeaient l'hôpital et ses différents locaux. Ce qui se révèle chaque jour un peu plus des scènes odieuses, notamment avec ces découvertes des corps d'enfants et de femmes ayant été exécutés et enterrés dans les cours d'hôpitaux. Cela confirme bien que nous sommes face à un ennemi fasciste assoiffé de meurtre et de sang, a regretté le Hamas. Il a en outre qualifié Israël de régime dépourvu de toute valeur humaine qui n'hésite pas à commettre les crimes les plus ignobles contre des civils. Au moins 34 097 personnes sont mortes à Gaza depuis le 7 octobre de l'année dernière, lorsque le régime sioniste a commencé à s'attaquer à la frange côtière en réponse à l'opération Tempête Al-Aqsa, menée par les mouvements de résistance palestiniens à Gaza. Les femmes et les enfants représentent environ 72% des victimes de la guerre, qui a aussi pour bilan 76 980 blessés. Les forces américaines continuent de piller les richesses syriennes des zones qu'elles occupent à saquer dans le nord-est syrien. Selon l'agence de presse officielle syrienne Sana, les forces américaines ont transmis lundi 22 avril des dizaines de camions et de camions citernes chargés de blé et de pétrole vers leur base sur le territoire irakien. Des sources locales en banlieue de Yaroubiya, à proximité de la frontière irakienne, ont déclaré à l'agence de presse Sana que, dès les premières heures du lundi matin, un convoi composé de 509 véhicules, dont 45 camions citernes chargés de pétrole et 24 camions chargés de blé volés dans les silos de Arsaké et de sa banlieue, s'était dirigé via le passage illégal d'Al-Mahmoudiya vers des bases américaines dans le nord irakien. Des sources locales basées à Yaroubiya ont précédemment déclaré à Sana qu'un convoi américain composé de 45 camions citernes contenant du pétrole volé dans le champ pétrolier syrien d'Al Jazeera avait quitté la Syrie pour se diriger vers des bases américaines au nord d'Irak via le passage illégal d'Al-Mahmoudiya. Aux États-Unis, les manifestations pro-palestiniennes ont pris de l'ampleur dans les universités. Un groupe important de manifestants a établi un campement de solidarité pour Gaza à l'Université de Columbia, où des centaines d'étudiants ont appelé l'université à se désengager des entreprises et en délire avec le régime israélien. Pour tenter de faire face au rassemblement, les autorités universitaires ont annoncé que les cours auraient lieu virtuellement lundi. Plus tôt dans la semaine, les autorités ont fait appel à la police qui a rassemblé plus d'une centaine de manifestants. Cette décision a suscité une plus grande participation au cours du week-end. Les protestations se sont également étendues à d'autres campus, notamment au MIT, à l'Université de New York, à l'Université de Michigan et à Yale. Lundi, au moins 47 personnes ont été arrêtées à Yale après avoir apparemment refusé de se disperser. Les étudiants qui ont été arrêtés feront également l'objet de mesures disciplinaires à Yale, qui comprennent une série de sanctions telles qu'une réprimande, une probation, une suspension, indiquait l'université dans un communiqué. Le président américain Joe Biden a dénoncé les manifestations des étudiants, affirmant qu'il condamnait ceux qui, selon lui, ne comprennent pas ce qui se passe avec les Palestiniens. Le pays a apporté un soutien politique, militaire et de renseignement sans réserve à la guerre que le régime sioniste a déclenchée le 7 octobre de l'année dernière à la suite d'une opération de représailles menée par les groupes de résistance de Gaza. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Les fosses communes découvertes à Gaza se multiplient de jour en jour. Une nouvelle fosse commune a été découverte à l'intérieur du complexe médical Nasser à Khan Younes, dans la bande de Gaza assiégée. La chaîne de télévision palestinienne Al-Quds a rapporté le lundi 22 avril qu'une autre fosse commune avait été découverte dans l'enceinte de l'hôpital Nasser. Il s'agit de l'une des nombreuses fosses communes découvertes à ce jour dans cette région côtière. Selon ce rapport, cette fosse commune contenait les dépouilles mortelles de 513 martyrs palestiniens. Selon cette chaîne, les corps de 283 martyrs ont jusqu'ici été découverts à Khan Younes. L'Organisation de la défense civile de Gaza a annoncé la découverte de 3 fosses communes dans l'enceinte de l'hôpital Nasser et évalue le nombre de martyrs à plusieurs centaines. Plus tôt, le porte-parole de l'Organisation de la défense civile de Gaza a annoncé que plusieurs habitants de la région sont portés disparus et nous ne savons pas s'ils ont été arrêtés ou enterrés. Ces corps étaient dépouillés de leurs vêtements, ce qui indique certainement qu'ils ont été arrêtés, torturés et soumis à de mauvais traitements de la part de l'armée d'occupation, a déclaré Mahmoud Bassal, un porte-parole de la défense civile, ajoutant « Depuis le retrait des occupants de certaines zones de Gaza, quelques 2000 Palestiniens restent introuvables. L'armée israélienne leur a dit qu'ils ne couraient aucun danger, mais elle les a ensuite tués en quelques minutes. » Ce responsable palestinien a également affirmé que la plupart des martyrs découverts dans les fosses communes et dans les hôpitaux sont des femmes et des enfants. Plus de 6 mois après le début de l'agression israélienne contre Gaza, le régime s'enlise de plus en plus dans ses crises internes comme externes. Tout au long de cette période, le régime sioniste n'a engendré que crimes, massacres, destructions, crimes de guerre, violations du droit international, bombardements d'organisations humanitaires et famine dans la région. Le régime israélien a bel et bien perdu cette guerre et après 6 mois, il n'a pas été en mesure de neutraliser les groupes de résistance d'une zone restreinte assiégée depuis des années. Le régime d'occupation israélien a en outre déjà perdu tout soutien de l'opinion publique mondiale en raison des crimes évidents qu'il a commis dans la bande de Gaza.
bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission. Alors en effet, en février dernier, les forces israéliennes, l'armée israélienne a attaqué l'hôpital Nasser situé à Khan Younes, la deuxième plus grande ville de la bande de Gaza et tué des dizaines de personnes. Mais récemment, ce 20 avril 2024, il y a 2-3 jours de cela, les équipes palestiniennes de la défense civile ont découvert une fosse commune dans cet hôpital. Donc un crime de plus, un crime contre l'humanité. Mais toujours, toujours et toujours, le silence des instances internationales face à ces crimes perpétrés contre le peuple palestinien, non seulement depuis quelques mois, mais depuis des années. Nous allons évoquer ce nouveau crime perpétré et dévoilé avec nos deux invités. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à regarder un reportage préparé par mes collègues à ce sujet et on revient tout de suite après.
Les équipes palestiniennes de la défense civile ont découvert une fosse commune à l'hôpital Nasser de Khan Younes 2 semaines après le retrait des forces israéliennes de la ville située dans le sud de la bande de Gaza. Dans un communiqué publié le samedi 20 avril, l'Agence de défense civile de Gaza a déclaré que les corps de 50 Palestiniens tués par les forces d'occupation israéliennes avaient été retrouvés dans un charnier. Nos équipes poursuivent leurs opérations de fouilles et de récupération des corps de martyrs restants dans les prochains jours, car ils sont encore un nombre important, ajoute le communiqué. Les forces israéliennes ont attaqué l'hôpital Nasser et tué des dizaines de personnes qui s'étaient réfugiées dans le complexe médical en février après des jours de bombardements intenses. Ils ont attaqué Khan Younes, la deuxième plus grande ville de la bande de Gaza, début décembre, obligeant les habitants à fuir leurs maisons. Le 7 avril, l'armée israélienne a annoncé avoir retiré ses forces terrestres de Khan Younes. Depuis lors, les Palestiniens déplacés rentrent chez eux après des mois d'attaques israéliennes qui ont laissé une grande partie de la ville en ruine. Israël a lancé une guerre génocidaire contre Gaza, assiégée le 7 octobre, après que le groupe de résistance palestinien Hamas a mené une opération inédite contre l'entité occupante en représailles aux atrocités intensifiées du régime contre le peuple palestinien. Le régime de Tel Aviv a jusqu'à présent tué au moins 34 049 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, et en a blessé 76 901 autres.
Voilà, nous avons vu et entendu le reportage. Plus de 34 000 Palestiniens tués. Alors, c'est quand même un crime peut-être sans précédent. Nous allons évoquer ce sujet, ces attaques contre les camps de réfugiés, les attaques contre les hôpitaux, contre les maisons, contre les civils, les femmes et les enfants. Nous avons deux invités que je suis très ravie de retrouver. Il s'agit d'Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne des questions internationales, qui est avec nous depuis Damas. Également Bernard Cornu, politologue, écrivain et analyste des questions du Moyen-Orient. Je vous dis bonjour, chers invités. Merci d'être avec nous pour cette émission. Madame Midani, si vous voulez bien, on commence avec vous. En ce qui concerne cette nouvelle révélation, de ce crime perpétré contre l'hôpital de Nasser à Khan Younes. Dans un premier temps, quel est votre avis général sur ce qui vient de se passer, Madame Midani?
Bonjour à vous. Et puis, je voudrais commencer par saluer quand même la lutte du peuple palestinien, saluer sa résistance héroïque, hein, et sans précédent face à des exactions aussi sans précédent, pleines de sadisme et d'horreur. Hein, et que cela continue depuis le 7 octobre, le 8 octobre, donc depuis pratiquement 7 mois. Et le peuple palestinien et sa résistance tiennent bon Il continue à essaimer des coups douloureux aux Israéliens. C'est ça qui les a obligés à se retirer de Khan Younes, et les a obligés à se retirer du nord, de Gaza. Et en fait, de plus, il continue, les Israéliens continuent donc pour cela aussi d'accentuer leurs crimes génocidaires. Mais accentuer l'horreur de leur crime dans l'espoir de transformer Gaza en exemple à ne pas suivre pour l'ensemble de la population.
Oui.
Alors bien sûr, ces horreurs, elles ont été faites dès les premiers jours. On se rappelle aussi l'hôpital Ashifa qui est devenu pratiquement comme une citadelle. Il a été entouré, encerclé par les chars, isolé du monde, et ils se sont après abattus sur l'hôpital. Ils l'ont transformé en centre d'inquisition, de répression et interrogatoire. Toute l'équipe de l'hôpital a été aussi torturée, comme les blessés, les enfants, les réfugiés, parce que ça a été fait en deux temps. Donc c'est vraiment, ils excellent dans l'horreur, je dirais. Et là, aujourd'hui, on retrouve dans l'hôpital aussi Nasser, à Khan Younes, d'où ils se sont retirés, les Israéliens se sont retirés depuis trois jours, effectivement fuyant les coups répétés et glorieux de la résistance palestinienne. Là, on découvre les charniers, on découvre des personnes qui sont mortes, torturées, avec les mains nouées derrière le dos, avec tout un tas d'horreurs. Et puis, il faut dire, les hôpitaux sont toujours aussi le lieu de refuge des exilés. Les gens viennent non seulement chercher l'aide médicale, mais aussi par les bombardements, ils cherchent l'asile. Il faut reconnaître, il faut dire aussi que les Israéliens avaient déclaré ces zones du sud comme étant des zones de sécurité, en fait, donc où les réfugiés peuvent aller, et que on ne les bombardera pas, on ne les touchera pas, et donc des zones humanitaires et sécuritaires. Ils n'ont pas arrêté de les bombarder, de violer ces entités, violer l'hôpital, violer les blessés, les enfants, les exilés, etc. Donc en fait, ça c'est quelque chose de très important à signaler, et je dirais quand même le fait de trouver aujourd'hui un charnier collectif à l'intérieur de l'hôpital ne nous étonne plus, vu les crimes qu'on a vus depuis le début, et n'étonne plus les Palestiniens. Ce qui est étonnant aussi, c'est le silence assourdissant de tous ces pays qui se prétendent défenseurs des libertés humaines, défenseurs des femmes, défenseurs des enfants, défenseurs de la liberté de parole. D'ailleurs, là-dessus, je voudrais signaler que dans ces pays maintenant, rien que de dire « on soutient la résistance palestinienne », ça devient un crime, un délit d'apologie du terrorisme. C'est le cas en France, c'est le cas en Belgique, c'est le cas en Allemagne, et c'est quelque chose d'absolument terrifiant, où la manière dont ces pays couvrent leurs crimes et couvrent les crimes israéliens, en fait, sans aucun scrupule, et au vu et en défiant toutes les lois, toutes les règles internationales, à la fois des droits de l'homme et de la guerre. Car l'hôpital est en loi de guerre, et pour les pays qui se font la guerre, je ne voudrais pas appeler ça une guerre, mais normalement, les hôpitaux sont quand même respectés et doivent être un lieu sûr.
Exactement.
Et un lieu inattaquable. Alors que là, c'est comme les lieux de culte d'ailleurs, et c'est quelque chose d'absolument sacré qui doit être protégé et où la population va se protéger à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment, ils font fi de toutes les règles, je dirais, même des conflits dans l'humanité, et qui sont tenus, et la charte de l'ONU, etc. Et malgré le fait que la Cour internationale de justice a donné aussi un certain nombre d'injonctions dans son rapport de fin décembre, où Israël s'assoit sur tout ça, malgré aussi le vote du Conseil de sécurité, de tous les membres du Conseil de sécurité, exigeant un arrêt immédiat de l'agression, en fait, contre Gaza et le retrait immédiat, eh bien, le veto américain l'abstention américaine a fait que Israël continue dans ses crimes de plus belle et continue donc à s'aimer la terreur, je dirais, à semer la terreur. Dans toute la Palestine, d'ailleurs plus à Gaza, mais aussi en Cisjordanie. Je voudrais quand même dire et rappeler aussi que Tol Karem a été envahi, que Jenin a été envahi, que Nablus a été envahi. Et c'est pareil, les lieux privilégiés de leur invasion, c'est l'hôpital, c'est les habitations civiles, etc. C'est en fait quelque chose d'absolument affolant. Et ce qui est plus affolant, c'est le silence et l'aveuglement des pays occidentaux et de ces et puis la sclérose, je dirais, ou l'incapacité des instances des Nations Unies à faire appliquer même la charte et la charte des Nations Unies et la loi internationale.
Merci infiniment pour vos détails, votre analyse, Madame Midani. Restez en ligne. Monsieur Cornu, vous avez entendu l'analyse et le point de vue de Madame Midani, comme l'a très bien expliqué Madame Midani. Alors, ces crimes perpétrés, mais le point, c'est les crimes et les attaques perpétrées contre un hôpital, un lieu qui est censé être sécurisé, qui est censé être sûr partout dans le monde. Les lois internationales, tout ce que vous voulez, disent qu'un hôpital est un lieu sûr et sécurisé. Comment ça se fait qu'il y a des attaques contre ce genre de lieu, mais après il y a la révélation des fosses communes, mais après il y a toujours le silence des instances internationales qui ne font que regarder ou peut-être juste publier un communiqué pour condamner ce genre d'attaque. Comment pourrait-on expliquer cette situation, Monsieur Cornu?
Disons, on est sans doute au bout, à l'extrémité d'un processus colonial qui s'étend depuis longtemps en Cisjordanie. Et comme l'a dit récemment un professeur palestinien, d'ailleurs de Columbia, le professeur Joseph Massad, dans un article sur Middle East Aid, il dit que dans toutes les fins des processus coloniaux, il y a une accélération, une aggravation des massacres, parce que la puissance coloniale est affolée par la résistance populaire et les massacres s'aggravent. C'est une comparaison par rapport à ce qui s'est passé au Kenya, ce qui s'est passé en Algérie avec la France, au Kenya donc avec les Britanniques, en Inde aussi. Et donc, c'est un processus extrême et il est difficile même aux Israéliens de gauche, les quelques rares qui s'occupent de protester contre les agissements du gouvernement et de l'armée israélienne dans tous ces massacres, il est difficile d'être entendu, même s'ils publient des documents, s'ils critiquent des lettres qui sont un document pour l'histoire de leur résistance à eux aussi, ils n'ont pas d'influence. Et chez nous aussi en Europe, il y a des manifestations massives en Angleterre, à Genève, en Allemagne, en France, mais pour l'instant, elles n'ont pas encore d'effet pour convaincre les gouvernements qui sont sans doute trop loin de ces populations de Gaza, palestiniennes, qu'ils connaissent mal, n'ont pas d'empathie, de vraie empathie pour ça. Je voudrais signaler une fois une chose que j'ai découverte très récemment, c'est que le plus proche conseiller du président Macron, sa mère, était une Sabra, c'est-à-dire une juive née à Haïfa en 1932, de parents aussi présents comme juifs de la Palestine historique. Et en fait, donc, le narratif, ce qu'a raconté, ce qu'a entendu le Macron dans ses années, quand il avait 30 ans, quand il était au début de ses années 40 ans, et même pendant son premier mandat et son deuxième mandat, c'est surtout une histoire vue par les juifs de colonisateurs des années 30, qui eux considéraient qu'ils luttaient contre l'impérialisme britannique. Des gens ont osé dire ceci, que Israël n'est pas un État colonial, c'est un État anticolonial, parce qu'il se luttait contre l'Empire britannique. Ceci est complètement une distorsion sémantique, une distorsion de l'histoire, parce que le peuple palestinien est là, avec une petite proportion de juifs qui étaient là depuis très longtemps aussi, mais c'était la majorité de la population. Et le projet sioniste, qui était représenté par Jabotinsky, dont le premier conseiller secrétaire était d'ailleurs le père de Netanyahou, et tous ces gens-là qui sont dans l'extrême droite du sionisme, veulent poursuivre cette lubie, cette illusion de projet colonial, et au prix de massacres et tout ça. Aujourd'hui d'ailleurs, tout récemment, un premier dirigeant des services secrets israélien a démissionné, parce que c'est une toute petite fraction dans la population d'Israël qui se révolte contre cette politique-là, mais je pense que ce mouvement va grossir et qu'on devra un jour, Netanyahou sera amené à démissionner et être amené devant les tribunaux de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale, à la fois comme chef d'État et comme personne, et avec aussi ses comparses officiers.
Merci, Monsieur Cornu. Madame Midani, est-ce que, comme le dit Bernard Cornu, à votre avis, on pourrait vraiment être optimiste à ce qu'un jour des personnes comme Netanyahou soient condamnées à la justice, à la Cour pénale internationale, et qu'ils doivent répondre en fait un jour, qu'ils répondront un jour pour tous ces crimes perpétrés contre des milliers de Palestiniens?
Un jour, il devra répondre effectivement devant de ces crimes. Mais moi, j'avoue honnêtement, je ne crois plus beaucoup aux instances internationales, parce que je vois qu'elles sont complètement incapables de bouger le petit doigt vis-à-vis des grands crimes qui sont perpétrés par à la fois par les États-Unis et par Israël. Moi, je ne sépare pas les deux, parce que de toute façon, cette guerre aussi, c'est la guerre des Américains. On l'a vu, et ils continuent à alimenter en armes, en munitions, et même c'est eux qui dirigent. Donc, en fait, tant que les États-Unis ont de la force, ces instances sont complètement paralysées par les vétos américains. On a vu même que même l'Assemblée générale, elle est paralysée par le veto américain. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il est important de mener la procédure et d'aller jusqu'au bout, parce que ça, c'est pour l'histoire et pour la documentation des crimes. Mais un jour viendra, effectivement, lorsque la Palestine sera libérée et que les États-Unis se retireront, seront obligés de se retirer et puis de retirer Israël de la région. Donc ça, c'est pour le futur, mais aujourd'hui il faut que la résistance continue par tous ces moyens forts en fait, et que nous continuions à soutenir la résistance palestinienne par tous nos moyens, et il faut riposter cet état fantoche et voyou d'Israël par la force. D'ailleurs, à cette occasion, je prends cette liberté de dire bravo à l'État, à la République islamique d'Iran, qui a donné une belle claque aux Israéliens dans la riposte contre son agression en fait de l'ambassade iranienne. Cette riposte a été très importante pour moi. Je pense que pour beaucoup de monde, elle est très importante pour mettre le holà, mettre vraiment les lignes à ne pas dépasser, et puis menacer ce pouvoir qui est complètement au-dessus des lois, comme quoi il aura pas seulement une riposte, mais une grosse claque. et ça ira plus loin s'il continue dans ses agressions, en fait. Donc ça, c'est très, très important. Puis je voudrais aussi saluer toutes les forces de la résistance, de l'axe de la résistance, donc aussi la résistance yéménite qui assène des coups importants et à l'économie. Et puis malheureusement, elle en prend aussi de la part des Américains, des Britanniques par les bombardements. Elle résiste aussi la résistance irakienne, la résistance libanaise, l'État syrien qui continue aussi à résister, à asséner des coups là où il peut. Donc, aujourd'hui, que l'axe de la résistance, qui est très actif aux côtés des Palestiniens et qui soutient cette résistance absolument héroïque et légendaire, je dirais, il faut le dire, pas seulement de la résistance palestinienne, des forces de la résistance, mais aussi du peuple qui est vraiment reçoit les pires coups de la part des Israéliens et les pires exactions. Et en plus, quand on voit le chiffre, 34 000 morts, sans parler de ceux qui sont restés sous les décombres, en 7 mois, ça dépasse en fait des guerres internationales qui durent pendant des années. Donc là aussi, le peuple palestinien, il endure, il tient, il résiste. Et je crois qu'il est déterminé de toute manière, et toute la région est déterminée à ce que les Américains quittent cette région, à ce que cet État intrus d'Israël qui a été planté par les forces britanniques, américaines et françaises dans la région pour qu'ils continuent à pomper les richesses de cette région, ben, jusqu'au jour-là, il est sur sa fin. J'ose espérer qu'il va disparaître rapidement. Et que la libération de la Palestine est très proche.
Inch'Allah, on l'espère aussi. Bernard Cornu, vous, comment voyez-vous la perspective des choses? On a 2 minutes devant nous, s'il vous plaît.
C'est une conjonction de cette résistance populaire dans les pays européens et aux États-Unis contre ces politiques de complicité avec l'État israélien, agresseur, occupant, terroriste, et la conjonction des actions juridiques à la fois à la Cour internationale de justice, qui a été claire, qui a été précise pour dénoncer tous les crimes et faire un avertissement sur les mesures conservatoires exigées, qui ne sont pas encore appliquées, et par l'État israélien, et aussi par la Cour pénale internationale, dont on a dit récemment qu'elle s'apprêtait sans doute à lancer un mandat d'arrêt contre le Premier ministre Netanyahou.
Oui. Merci infiniment. Alors, Bernard Cornu, écrivain et géopolitologue, Aïssar Midani, analyste des questions internationales, était avec nous pour cette émission. Et nous avons évoqué les crimes perpétrés par l'armée israélienne contre le peuple palestinien, mais surtout la révélation de la fosse commune à l'hôpital Nasser de Khan Younes. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette émission. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
Le tourisme gastronomique, également appelé tourisme culinaire, est un type de voyage touristique associé à la cuisine locale, dans le but de découvrir l'histoire, le savoir-faire et la culture d'un pays à travers ses spécialités culinaires. Le tourisme gastronomique en Iran est une série de 36 émissions qui tentent de faire découvrir à nos fidèles auditeurs la riche cuisine iranienne. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue encore une fois dans notre émission dédiée au tourisme gastronomique en Iran. Dans le programme d'aujourd'hui, nous nous rendons ensemble dans la province du Khorasan du Sud, située à l'est de l'Iran, et nous connaîtrons certains des plats locaux de la province. Nous vous invitons de nous accompagner dans notre visite dans la ville de Tabas, où nous vous ferons découvrir deux plats locaux de la ville de Khorasan du Sud, à savoir les friandises Gandon Polo et Rouvar Kardé. Restez avec nous. Tabas est l'une des plus belles villes désertiques d'Iran, située dans la province du Khorasan du Sud. Le nom de Tabas peut être vu dans de nombreux livres anciens et récits de voyages historiques. Nasser Khosrow est passé par Tabas lors de son voyage en 1059 après Jésus-Christ et est resté dans la ville pendant 17 jours. Dans son récit de voyage, il a magnifiquement décrit Tabas. L'une des choses intéressantes qu'il a racontées à propos de la ville désertique concerne la sécurité qui est prévaut. Il a par ailleurs écrit dans son récit de voyage « Les habitants de la ville ne ferment pas la porte de leur maison et comme il n'y a pas de mur autour de la ville, les chevaux passent la nuit dans le désert. » Il convient de mentionner qu'après des centaines d'années, la ville de Tabas est toujours l'une des villes les plus sûres d'Iran. La ville historique est très ancienne. Les monuments et œuvres historiques découverts dans cette ville remontent à l'ère pré-islamique, à la période sassanide, mais certains historiens estiment que cette zone remonte à la dynastie achéménide, dominante dans le territoire iranien il y a 2500 ans. Bien que Tabas soit une ville désertique, les riches mines de charbon de la belle ville du Khorasan du Sud prouvent que, dans un passé lointain, il y avait des forêts denses et de grands lacs dans cette région à l'est de l'Iran. Il existe de nombreux monuments historiques dans la ville désertique sur lesquels sont restés rivés les yeux de chaque spectateur en raison de leur très belle architecture. Le jardin Golchan est un magnifique jardin situé au cœur de la ville de Tabas qui remonte aux périodes indiennes et Qajar. Aussi, sur le site web du Daily Telegraph, le nom du jardin Golchan est mentionné parmi les 50 plus beaux jardins du monde. Le jardin Golchan représente l'architecture des jardins iraniens et la destination de nombreux touristes et voyageurs dans cette ville. Une autre partie historique de la ville est la vieille citadelle de Tabas, ou vieille citadelle, dont l'histoire de la construction remonte à sont en réalité des structures ressemblant à des châteaux où les habitants étaient protégés face aux attaques des ennemis. Le tremblement de terre survenu en 1978 après Jésus-Christ lui a infligé beaucoup de dégâts et pour cette raison, elle est vide depuis lors. Parmi les attractions naturelles de Tabas, on peut citer la source Mortaza Ali, qui est située à 30 km de la ville et de l'eau chaude bout d'un côté et de l'eau fraîche coule de l'autre côté. Elle s'étend comme une belle gorge. Au bout du chemin de la source se trouve le barrage voûté le plus fin, le plus haut du monde, l'Arche de Shah Abbasi. Ce barrage est connu comme le barrage voûte le plus haut, le plus fin et le plus ancien au monde, bien qu'il soit surtout célèbre pour sa couronne en pierre d'un mètre d'épaisseur. Il est intéressant de savoir que le pont Abbasi a été construit dans cette zone il y a environ 500 ans, sous ordre de Shah Abbas Safavi, Abbas le Grand, l'un des rois de la dynastie Safavide. Chers auditeurs, nous vous invitons dans cette partie du programme de nous accompagner pour découvrir les plats locaux de la ville de Tabas. Les produits agricoles de Tabas comprennent principalement les légumes d'été, les légumineuses, le blé et les dattes qui sont largement utilisés dans la cuisine locale des habitants de la ville orientale de l'Iran. Parmi les plats locaux des habitants de Tabas, on peut citer le gandon polo et le kashke bademjan, un plat à base d'aubergine et de kashk, et les friandises rouvar kardé et pain relefi sont également très populaires parmi les habitants de Tabas. Le gandon polo est l'un des plats populaires et anciens dans de nombreuses villes du désert d'Iran. mais la façon de cuisiner cet aliment est différente dans chaque région d'Iran. Les tabassis n'utilisent pas de viande dans ce plat. Il s'agit d'un aliment rapide et facile et entièrement végétarien. Le mot persan balrou signifie du blé et de l'orge cuit et séché, moulu en moulin. Il est intéressant de savoir que dans le passé, la population iranienne n'a mangé du riz que quelques fois au cours de l'année et que sa nourriture prédominante était le balrou de blé et d'orge. Afin de conserver longtemps ces grains, les Iraniens les épluchaient et les cuisinaient avec de l'eau et du lait. Ensuite, ils étaient séchés et pilés dans un mortier. Après ce traitement traditionnel, l'orge et le blé peuvent être conservés longtemps sans moisir et ils ont été utilisés dans les différents types de potage et dans d'autres plats iraniens. Pour préparer le gandon polo propre à tabas, on a besoin de 2 tasses de balrou de blé, de 3 tomates concassées, de 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, de 2 petits oignons un peu pelés et hachés, 1 litre d'eau, ainsi que de sel et de poivre dans la quantité souhaitée. Tout d'abord, versez l'huile d'olive dans une casserole et mettez-la sur feu moyen jusqu'à ce qu'elle chauffe. Mettez ensuite l'oignon, la tomate, le sel et le poivre dans la casserole et faites-les revenir jusqu'à ce que l'oignon et la tomate ramollissent un peu. Versez ensuite le balrou avec 1 litre d'eau dans la casserole et laissez bouillir l'eau. Après ébullition, réduisez le feu du gaz et fermez la marmite. Le balrou prend environ 15 à 20 minutes à cuire. Pendant ce temps, l'eau sera complètement absorbée et le plat local du balrou polo sera prêt à être servi. La belle ville de Tabaz possède de nombreux produits naturels et comestibles et les voyageurs qui se rendent à Tabaz ne quittent jamais cette ville sans goûter les friandises populaires de la ville iranienne. Rouvar Kardeh est l'une des friandises les plus délicieuses de Tabaz, très populaire et également préparée à Birjand et dans d'autres villes de la province du Khorasan du Sud. Pour préparer cette friandise, il vous faut 750 g de farine blanche, 250 g de farine de blé, 450 g d'huile solide, 1 cuillère à soupe de levure en poudre, 2 tiers de verre d'eau tiède, 1 tiers de verre de l'eau de rose et 1 cuillère à soupe de sucre. Tout d'abord, dissolvez la levure avec 1 cuillère à soupe de sucre dans de l'eau tiède et laissez reposer 10 minutes. Mélangez ensuite l'huile solide, l'eau de rose et la levure et ajoutez la farine petit à petit. À ce stade, pétrissez bien la pâte et laissez-la reposer 1 heure ou 2. Dans une étape suivante, étalez la pâte sur une surface à l'aide d'un rouleau à pâtisserie entre 2 nylons et rendez-la très fine. Moulez la pâte et déposez-la sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé. Faites ensuite des petits trous sur la pâte moulée à l'aide d'une fourchette. Placez la plaque dans un four préchauffé à 175 degrés Celsius pendant 15 à 20 minutes pour cuire. Retirez ensuite les pains du papier et remplissez-les de halwa spécial. Pour préparer le halwa entre les sucreries, vous avez besoin de 750 g de jus de date, 600 g de sucre, 300 g de farine de blé, 1 cuillère à soupe de cardamome, 1 tasse d'eau de rose, 1 noix de muscade en poudre et du safran au choix.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.